Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba.
Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, est avec nous. Thierry, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous et bienvenue à Kinshasa.
Avec nous aussi, Élisée Mkwatine depuis Boïkon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Nous retrouvons Amdine Si à Dakar. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et avec nous également, Amine Birouk depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Merci à tous de votre présence et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute. Vous le savez, le Zamalek renoue avec un sacre continental 16 ans après, pourtant battu à l'aller 1-0 par la Renaissance sportive de Berkane. Les Égyptiens ont renversé la vapeur et se sont imposés 1-0, remettant donc les pendules à l'heure avant de s'imposer finalement au tir au but par 5 tirs réussis contre 3. Amine, le match a surtout basculé en seconde période avec ce pénalty obtenu par le Zamalek après recours à la VAR suite à une main de Nadji dans la surface.
La première mi-temps était totalement équilibrée. On avait même une équipe de Berkane qui pressait plus haut, qui arrivait à sortir le ballon. Une équipe du Zamalek plutôt tétanisée par l'enjeu et jouant en deçà de ses moyens. Ce qu'il y avait, c'est peut-être un coaching gagnant, en tout cas un changement de stratégie de la part du Zamalek qui a pu presser davantage en deuxième mi-temps. Quand tenait l'équipe marocaine à jouer, à défendre beaucoup plus bas, quasiment à hauteur de 16,50 m, c'est ce qui a permis d'obtenir ce pénalty. D'ailleurs, ne souffre d'aucune contestation après recours à la VAR. La réaction des Marocains a tardé. Il y a eu une ou deux tentatives de la VAR de Côte de là-bas, avec une très bonne intervention du gardien qui niche. Et puis, le dernier coup de théâtre du temps réglementaire, c'est l'expulsion du joueur marocain, le capitaine marocain, Mselem. Un coup de chute à un duel assez musclé avec l'international égyptien Karaba. Ce qu'il y a eu pendant la série de tirs au but suscite quelques interrogations. Car en cours de match, le gardien égyptien Guinness a eu un carton jaune pour une échauffourée. Pendant le tir au but qui a été donné à refaire, parce qu'il y a eu recours au VAR suite à une tentative d'un joueur marocain qui a été stoppée par le gardien Guinness, la VAR est intervenue et a prévenu M. Bablak Tessema qu'on devait retirer cette tentative. C'était le deuxième tir au but de l'équipe de Berkane. Logiquement, le règlement prévoyait un carton jaune pour l'auteur de l'infraction, le gardien égyptien, qui avait bougé de sa ligne avant la tentative. En tout cas, c'est ce que stipule le règlement de l'international. Logiquement, il aurait dû recevoir un deuxième carton jaune, donc synonyme d'exclusion, et ça aurait peut-être, je dis bien peut-être, je reste très réservé par rapport à cette hypothèse, changer un peu le cours de cette série de tirs au but où les Égyptiens ont préservé leur sang-froid. Ils ont réussi leurs 5 tentatives et les Marocains n'en ont réussi que 3 sur 4. En tout cas, le Zamalek réussit à remporter la première coupe de la CAF de son histoire. Il n'y a pas de comparaison en termes de budget entre le Zamalek et la Renaissance sportive de Berkane, ni en termes de popularité, ni en termes d'histoire. Mais il y a eu quand même de saluer la prestation de cette équipe qui est parvenue pour la première fois de sa jeune histoire à une finale africaine et qui s'est battue jusqu'au bout pour pouvoir préserver le rêve de toute une région. Malheureusement pour le club marocain, le Zamalek était beaucoup plus costaud. C'était une équipe beaucoup plus expérimentée, certainement plus ambitieuse qu'au match aller et qui réussit à remporter ce trophée devant 70 000 supporters rassemblés au stade Bojlara d'Alexandre.
Merci bien, Amine. Alors, Élisée, c'est vrai que Berkane était à sa toute première finale continentale, comme le disait Amine tout à l'heure. Le club marocain avait bien réussi son match aller en se créant une kyrielle quand même d'occasion. S'il y a à regretter, est-ce que ce ne sera pas surtout par rapport au match aller?
Oui, bien évidemment, puisqu'on a vu des occasions qui auraient pu être concrétisées à l'aller. Même l'unique buteur du match aller aurait pu tuer le match, mais c'est vrai que il faut aussi comprendre qu'à un moment donné, les Égyptiens ont voulu jouer le match nul, surtout avec le schéma tactique imposé par le Suisse Christian grosse. Hein, l'information est tombée hier nuit. Il ne sera plus l'entraîneur hein, du Zamalek à partir du mois de juin prochain, puisque son contrat ne sera pas renouvelé. Mais il faut dire que Renaissance de Berkane, c'est quand même une très belle prestation, pour ne pas dire un très bon parcours hein, durant cette campagne africaine, cette saison. C'est vrai que bon, le club pouvait avoir mieux si déjà lors du match aller les joueurs étaient plus réalistes. C'est vrai qu'en face, il y a Zamalek, hein, n'oublions pas, puisque Zamalek, c'est ce qu'il y a de mieux en Afrique quand on parle de la Coupe d'Afrique des clubs en Ligue des Champions. Vous imaginez, hein, c'est 5 Ligues des Champions. Et c'est vrai que Zamalek n'a plus gagné il y a très longtemps, mais il y a l'espérance, hein, il a l'espérance, surtout que le club domine actuellement le championnat égyptien. Donc, il y a quelque chose qui a été fait à ce niveau. Zamalek apprendra à ses dépens. C'est vrai que l'espérance a parlé, même lors des séances de tir au but. Cette première frappe ou bien ce premier tir raté complètement a joué pratiquement sur la fin de cette séance. Maintenant, l'équipe aura du renfort la saison prochaine. On est en train de parler du Goliath d'or et congolais. Thierry Kamboudi pourra nous le confirmer, puisqu'on est en train d'attendre que Jean-Marc Makoussou Moundélé, hein, le buteur de l'Est du club, va s'engager la saison prochaine avec cette équipe marocaine. Donc on espère que la campagne africaine de la saison prochaine pourra mieux se terminer pour ce petit club du côté du Maroc.
Merci bien Élisée. Puisque vous parlez de Thierry Kamboudi, alors direction Kinshasa. Alors Thierry, dites-nous si Jean-Marc va rejoindre Berkane, mais par-dessus tout, on pourra retenir quand même que le club marocain peut être fier hein, de son parcours dans cette Coupe CAF.
Absolument, je l'ai dit depuis deux semaines, j'ai été séduit par le jeu plaisant qu'a proposé cette équipe durant toute la campagne. Mais parlant de Jean-Marc Makoussou Moundélé, il est encore blessé, hein, car il s'est blessé lors de l'avant-dernier match du championnat. Il s'est doublement fracturé et donc là, il est en pleine convalescence. Mais voilà, son parcours avec des clubs ces deux dernières saisons parle pour lui. Je disais donc que j'ai été séduit par le jeu de cette formation de Berkane qui n'a pas démérité, qui nous a proposé une nouvelle fois une prestation très très plaisante hier face à devant plus de 60 000 Égyptiens. Amine a tout dit, Élisée également a complété quant à l'analyse du match. Mais déjà, j'aimerais insister sur la séance de tir au but. Lorsque vous démarrez une séance de tir au but et que vous en ratez deux de suite, déjà, moralement, c'est très difficile. Il est vrai que l'un des tirs au but a été retiré. C'est d'ailleurs une première sur le continent qu'un tir au but soit retiré comme ça après consultation de la vidéo. C'est la VAR dans ses œuvres. Et donc, voilà, hein, lorsque vous en ratez deux d'entrée comme ça, moralement, ce n'est pas facile de se relever. Et donc, voilà, ce qui s'est passé derrière, c'est que les Égyptiens qui s'étaient bien préparés, qui étaient plus concentrés visiblement, ont réussi le coup, ont réussi leur fin tir. Et ce tir au but manquait justement d'entrée par cette formation marocaine a pesé à la balance et ils ont perdu. Donc voilà, on le verra la saison prochaine. Je les ai vus ici contre des clubs. Apparemment, au vu de leur parcours cette saison, ils se sont servis de ces petites erreurs de débutants. Et c'est une équipe qui a de l'avenir et qui certainement fera parler d'elle dans les prochaines saisons.
Merci Thierry. Alors Gilles, on dirait hein, que les Égyptiens ont fait tout de même hein, preuve de métier sur l'ensemble des deux matchs.
Oui, bien sûr. D'abord sur l'ensemble de la compétition et ensuite sur l'ensemble des deux matchs où leur expérience a vraiment été très précieuse. On l'a vu pendant le match aller, malgré les rushs de l'équipe de Berkane qui était toujours aussi enthousiaste dans ses élans offensifs. Et Zamalek n'a pas douté et a proposé un jeu de contre où il aurait aussi pu marquer sur un de ses contres. Et donc finalement, ce but tardif marqué dans les 5 dernières minutes de la rencontre a juste remis en cause le scénario du match retour. Mais en fait, Zamalek savait qu'il pouvait compter sur sa défense très solide depuis le début de la compétition pour à tout moment chercher à faire la différence et au moins revenir au score contre Berkane. C'est ce qui s'est passé.
Alors, Amine l'évoquait tout à l'heure, il y a eu beaucoup l'utilisation ou encore le recours à l'arbitrage vidéo dans cette double confrontation, tout comme en Ligue des Champions, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon ou quelle appréciation faites-vous de l'utilisation de l'arbitrage vidéo dans cette finale de la Ligue des Champions, dans cette finale de la Coupe CAF, pardon.
Je dirais, Yacouba, que c'est une très bonne chose parce qu'il faut quand même avancer dans la vie et la technologie est là pour faire avancer les choses. C'est vrai, quand on est supporter d'un club marocain, comme le Wydad Athletic Club ou Berkane, on se dit que la VAR n'a pas du tout été quand même salvatrice pour les supporters de ces deux camps. Mais il faut reconnaître que c'est une bonne chose pour le football, tout simplement. Mais quand on regarde ce qui s'est passé d'abord pour la finale de la Coupe de la CAF, il a fallu que l'arbitre interroge la VAR pour pouvoir siffler un pénalty. Quand on est supporter de Berkane, on se désole de cette technologie. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. Aujourd'hui, la VAR peut être contre toi, mais demain aussi, la VAR peut être avec toi. L'essentiel, je pense que c'est une bonne chose. Ça aide les arbitres qui sont des êtres humains normaux. Mais moi, mon problème, c'est que la VAR doit être utilisée dans tous les cas parce que, moi, j'ai l'impression que c'est un arbitrage à double vitesse parce qu'il y a des situations où l'arbitre doit interroger la VAR et il ne le fait pas. Et dans ce cas, il laisse un club, c'est pourquoi on doit tout faire pour essayer de corriger. Mais pour moi, pour me résumer, Yacouba, c'est une bonne chose, c'est un avancement pour le football africain.
Et donc, en réalité, tout se résume à l'intime conviction de l'arbitre. Sans transition, nous passons à la Ligue des Champions, toujours sur le continent. La finale allait entre l'autre club marocain du Wydad de Casablanca et les champions en titre tunisien de l'Espérance de Tunis a eu lieu vendredi au Maroc et s'est soldé par un match nul d'un but partout. L'Ivoirien Fousseni Koulibaly a ouvert le score pour les espérantistes à la 44e. Un autre Ivoirien, Cheikh Ibrahim Kamara, a égalisé pour les locaux à la 79e. Alors Amine, il y a eu du tout dans ce match, du beau jeu, des faits de jeu, buts refusés, actions litigieuses, cartons rouges, le recours à la VAR, de la tension, tout ce à quoi il faut s'attendre en tout cas dans une finale, surtout lorsqu'elle se joue entre deux clubs maghrébins.
La rivalité entre clubs maghrébins, c'est de l'électricité, surtout quand ces deux clubs visent le Graal sacré qui est la Ligue des Champions. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le Wydad a joué contre nature. Le Wydad de Casablanca a joué contre nature pendant près de 60 minutes. C'est-à-dire, confronté à une équipe avec de grands gabarits, notamment en défense, elle a péché par manque d'imagination, par manque de créativité, en envoyant de très très longs ballons. Ses duels aériens, ses deuxièmes ballons étaient confortablement gérés par l'équipe tunisienne qui a joué son vato en contre et qui a su profiter de la fébrilité de l'équipe marocaine, notamment en fin de première mi-temps, pour ouvrir la marche sur un coup de pied arrêté. Le Wydad s'est retrouvé même en situation de double handicap après l'expulsion méritée de son capitaine Brahim Mertach pour un tacle ou un pied en avant flagrant, problème de timing, puisqu'il était déjà à l'origine d'un carton jaune sur le coup franc qui a abouti au but de l'équipe tunisienne. L'équipe du Wydad n'a véritablement retrouvé ses esprits qu'à 30 minutes du terme de la rencontre, lorsqu'elle a commencé à poser le jeu au sol et à trouver des décalages. Et finalement, ses efforts ont été concluants sur un coup de pied arrêté qui a permis à Cheikh Ibrahim Kamara d'égaliser. Le Wydad a même poussé pour pouvoir prendre l'avantage. Il y a eu tout de même deux faits de jeu importants, d'où recours à la VAR et d'où contestation de la partie marocaine. Sur l'ouverture du score de l'équipe tunisienne, il y a eu une réaction marocaine et une égalisation à deux minutes du terme de la mi-temps. Sur cette action, un joueur marocain a emmené le ballon de la main. C'est-à-dire que le ballon a touché, c'est un ballon inattendu, il y a une main involontaire. Sur le règlement actuel de la FIFA ou de l'International Board, cette règle va être changée à partir du 1er juin. Toute action avec ballon où la main touche le ballon sera jugée comme main et donc faute. Aujourd'hui, l'arbitre Jihad Grisha, qui a recouru à la VAR, a tout simplement anticipé cette règle et l'a utilisée bien avant qu'elle n'entre en vigueur. Et ensuite, il y a un problème de posage de caméras. C'est-à-dire qu'il y avait 14 caméras HD pour cette confrontation, utilisée par, la société à laquelle a recouru la CAF pour pouvoir installer les caméras pour la VAR. Ce sont des sociétés agréées.
Et visiblement, l'arbitre, sur son intime conviction, une faute de main ou un soupçon de faute de main dans la surface de réparation de l'équipe tunisienne à la 60e minute de jeu, il a passé près de 5 minutes pour pouvoir essayer de comprendre la situation. Est-ce que le ballon a touché la main ou l'épaule? Et visiblement, à un moment ou à un autre, ça prend trop de temps. Donc, est-ce que c'est un problème d'installation de caméra? C'est un problème aussi. On va le rappeler, la VAR recourt à l'œil humain, c'est-à-dire que ça reste l'intime conviction de la salle VAR ou de l'arbitre de centre. Parce que le protocole est le suivant. Si la salle signale quelque chose à l'arbitre, et s'il est sûr du jugement, elle prend la décision sans pouvoir recourir à lui. Et c'est-à-dire qu'il ne fait qu'avaliser la décision de la salle. Si la salle a des doutes, ou si lui-même est conscient qu'il y a une action litigieuse, il doit recourir à l'écran, il doit partir, vérifier. Et ça doit prendre 30 secondes, 45 secondes, une minute, il a plusieurs angles. Et c'est là où son œil, ou l'œil humain, entre en action. Et c'est là où l'action litigieuse peut être tranchée en faveur de l'une ou de l'autre équipe. Quoi qu'il en soit, il y a eu donc un tollé, une série de protestations, que ce soit du Wydad de Casablanca, mais également de l'équipe tunisienne, avec un échange de lettres en direction de la CAF, le Wydad réclamant de son bon droit, l'équipe tunisienne réclamant la requalification de 3 joueurs qui seront suspendus pour le match retour. C'est la guerre psychologique qui a démarré pour le match de vendredi, qui aura lieu à Radef, sous la direction de Bakary Gassama, lequel arbitrait les 5 dernières finales retour de la Ligue des Champions. C'est un arbitre qui est expérimenté, un des meilleurs du continent, mais visiblement, en dépit de la sélection de Gilles Bichat, de Bamba Tessema ou de Sikazoué, pour terminer de Gassama, il y aura toujours contestation, car l'appât du titre fait souvent passer au second rang toutes les considérations d'ordre éthique, mais également d'ordre footballistique. On est plus actuellement entre équipes maghrébines ou de l'Afrique du Nord à des considérations extrasportives qu'à la réalité du terrain.
Merci bien, Amine. Voilà donc des considérations extrasportives que la réalité du terrain. Alors, Thierry, il y a eu cet effet de jeu-là, mais entre-temps, il faut reconnaître quand même que l'expérience sportive de Tunis, champion en titre, on va en rappeler, a su quand même faire preuve de métier dans ce match-là. Allez.
Absolument, obtenir ce nul à l'extérieur en finale aller, quand on sait qu'on doit recevoir au retour à la maison, c'est tout de même pour les espérantistes tunisiens qui sont en train de se diriger progressivement vers la conservation, enfin vers un deuxième titre d'affilée sur le continent. On verra bien comment les Marocains vont réagir au match retour après tout ce qui s'est passé et tous ces jeux qui ont été évoqués, des joueurs suspendus également. Mais ça sera très très difficile pour eux, au vu de leur prestation à l'aller, ça sera difficile pour eux d'inverser la tendance. Ça fait une formation expérimentée, une formation qui a su très bien gérer cette finale aller, surtout marquée à l'extérieur. On se rappelle toujours de cette finale contre le National du Caire et de ce précieux but qu'ils avaient mis au Caire justement avant d'assurer au retour, comme pour dire qu'à chaque fois qu'ils reçoivent en finale, ils font quand même le métier et ils sont favoris pour moi sur cette finale retour.
On attendra donc de voir. En attendant, les Marocains ne digèrent toujours pas le but refusé, le pénalty à eux, non accordé par l'arbitre de la rencontre après avoir consulté l'assistance vidéo. Et la Fédération Royale Marocaine de Football qui soutient le Wydad a donc envoyé une lettre de protestation à la Confédération Africaine de Football. On verra donc tout cela d'ici le match retour. Vous suivez Sporama sur VOA Afrique. L'émission revient tout de suite. Parlons à présent du mondial des moins de 20 ans. Pologne 2019, fortune diverse pour les représentants africains à cette compétition. Nous commençons par la bonne nouvelle. Alors Amdine, le Sénégal est en 8e de finale après ses 2 victoires en 2 sorties face à la Colombie hier 2-0. Et avant cela, vendredi dernier, les Lionceaux ont su classer un Tahiti 3-0.
Tout à fait, Yacouba. Le Sénégal qui fait un excellent tournoi parce que battre le Tahiti par 3-0 et surtout battre la Colombie par 2-0. Il fallait le faire et les Lyonnais l'ont fait. Il faut dire que c'est une équipe quand même qui monte en puissance puisque c'est la troisième participation consécutive de cette équipe des U20 du Sénégal, hein, puisque en 2015 déjà, ils ont fait la Coupe du Monde. D'ailleurs, ils avaient créé l'exploit en se qualifiant en demi-finale, éliminé par le Brésil. Ensuite, ils se sont qualifiés pour la deuxième édition en 2007 jusqu'en huitième de finale. Pour cette année, ils ont bien démarré, 2 matchs, 2 victoires, 5 buts marqués, 0 but encaissé. C'est vraiment un bon parcours pour le moment. Ils doivent rencontrer pour le dernier match de poule, la Pologne, le pays organisateur. Je pense qu'ils ont bien négocié comme les deux premiers matchs. Il faut bien négocier le troisième et ensuite attendre parce que à partir des huitièmes de finale, c'est une compétition spéciale parce que c'est des matchs à éliminatoire direct où il faut négocier les 90 minutes ou 120 minutes. Je pense que le Sénégal est bien parti. C'est une bonne équipe qui a réussi à faire 3 finales d'affilée en Coupe d'Afrique, même si ils n'ont pas encore gagné. C'est une bonne chose. Je pense que le Sénégal est sur la bonne voie, Yacouba.
On souhaite donc toutes les chances du monde au Sénégal. Alors, Élisée, si le Mali a débuté par un match nul contre le Panama, le Nigeria a atomisé le Qatar 4-0, tandis que l'Afrique du Sud a complètement sombré dans sa première sortie, battue par l'Argentine sur le score de 5-2. On revoit tout cela donc rapidement avec vous, Élisée.
Oui, contre l'Argentine, il faut dire que c'est face à un sérieux prétendant. C'est vrai qu'il faut dire, bon, il y a quelque chose qui se fait désormais en Afrique du Sud, mais ça ne vient pas devant des grandes nations comme l'Argentine, le Brésil, le Mexique. C'est des pays qui sont habitués à remporter le mondial des moins de 20 ans. Maintenant, le Mali. Le Mali doit hausser réellement le niveau de son jeu. Lors de la précédente édition, on a vu la prestation des Maliens, on a vu l'espoir qu'ils ont créé pour aller jusqu'en demi-finale. Donc, en tout cas, ce n'est que leur première sortie. Il y a encore 2 matchs à rattraper, histoire de se qualifier pour les quarts de la huitième de finale. Maintenant, le Nigeria aussi a de la valeur à revendre, surtout après cette nette victoire face au Qatar. Les Nigériens jouent actuellement leur second match. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se confier à des nations comme le Sénégal. Amdilti l'a dit, le Sénégal aussi, c'est désormais un pays où il y a la formation avec des centres comme Diemba, Génération Foot, où il y a aussi l'Olympique Lyonnais, Manchester City qui sont intéressés par la formation qui se fait au Sénégal. Donc, c'est-à-dire que quelque part, on pourra compter sur ces nations. Mais il faut dire, on n'est qu'à la première journée, le Sénégal s'est qualifié. On peut aussi avoir le Nigeria qui sera au second tour, le Mali aussi. Mais pour l'Afrique du Sud, ce sera un peu compliqué.
Retour donc sur le continent et direction le Gabon. Patrice Neveu est le nouveau sélectionneur des Panthères. Le Français de 65 ans a été nommé vendredi en remplacement du Gabonais Daniel Cousin et avec pour mission de qualifier les Panthères pour la Coupe d'Afrique 2020 selon la Fédération Gabonaise de Football. Alors Jules, vous qui êtes sur place, dites-nous, Neveu est-il ce monsieur qu'il faut pour un renouveau du football gabonais comme le souhaite la Fédération?
Oui, je le pense, parce que nous avons vu que pendant, disons que la période où Cousin a eu à prendre l'équipe, il était difficile pour lui d'être au-dessus des débats internes ou alors des inimitiés entre les joueurs ou des relations avec la hiérarchie. Donc, quand il y a un entraîneur expatrié, et disons que le côté positif, c'est que généralement, à ce niveau-là, il a moins de problèmes.
Alors, on va évoquer très rapidement, en 30 secondes avec vous, Jules, également, ce scandale qui mine le football féminin gabonais. Les joueuses de moins de 20 ans, l'équipe nationale de moins de 20 ans, qui accusent leurs encadreurs d'agression sexuelle lors d'un séjour à Marseille, dans le sud de la France. Qu'en est-il?
Oui, mais là, disons que nous avons tous été surpris par cette déclaration, mais il faut dire que ça rentre dans la tradition de confusion qu'il y a souvent en Afrique autour des équipes féminines, et même en dehors du football, entre le harcèlement, la drague, même le droit de cuissage. Donc tout cela se bouscule dans la tête des hommes, et il était grand temps que ce genre de situation permette aux filles de parler, et donc les langues se sont déliées et la justice a pris au sérieux ces déclarations.
Merci bien, Jules Valentin Goué depuis Libreville au Gabon. Je rappelle qu'on était également avec Élisée Nkwatine depuis Boïkon au Bénin, Thierry Kamboundi de Top Congo FM à Kinshasa, Amine Birouk à Casablanca et Amdine Si à Dakar. Sporama qui s'achève ici à la présentation Yacouba Ouédraogo, à la réalisation Cheikh Thiro. On se dit à lundi prochain.